Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il y a des malfrats qui volent de drôles de butins. Pourquoi diantre dérober le cercueil d'un vieux maréchal revêtu de son uniforme et de sa médaille militaire, frappé d'indignité nationale de son vivant qui plus est ? Je vous raconte maintenant l'histoire à peine croyable du commando de l'Île-Dieu qui est tombé en le cherchant bien sur les eaux du maréchal Pétain. Nous sommes le 19 février 1973. Il est 9h. Malgré l'heure matinale, il fait remarquablement doux en ce début de semaine hivernale. Jean Tarot, employé municipal du cimetière de Port-Joinville, a l'habitude, lui. Comme les autres habitants de l'Île-Dieu, le fossoyeur connaît bien le microclimat qui préserve des grands froids, ce territoire au large de la Vendée. Ce matin-là, Tarot inspecte les allées du cimetière marin. D'abord parce qu'on est lundi, mais surtout parce qu'une équipe de footballeurs chaussés de crampons a visité le cimetière la veille. Mais là, surprise. Autour de la tombe la plus visitée du cimetière, les allées sont parfaitement ratissées. Quelque chose cloche. La dalle funéraire semble même légèrement décalée. Mais diantre, le caveau a été descellé. Cela ne fait aucun doute. Les joints en ciment blanc sont encore frais. Sous le choc, le fossoyeur prévient la gendarmerie qui elle-même contacte immédiatement le procureur et le sous-préfet. Et c'est pas fini. Dès 10h30, l'information est communiquée au préfet en personne qui à son tour se décide à envoyer un télégramme au ministère de l'Intérieur. Tombe maréchal Pétain à l'Île-Dieu a été profanée nuit du 18 au 19 février 1973. Stop. Dalle a été décellée puis recellée. Stop. Un angle de la dalle a été cassé. Stop. Procureur de la République des Sables d'Olonne a été avisé. Fin. La tombe du maréchal Pétain. Eh oui. Sur l'Île-Dieu, c'est elle le monument local. Car c'est ici, en juillet 1951, que l'ancien maréchal de France a été inhumé après son décès, à l'âge de 95 ans. Pas parce qu'il y avait de la famille ou une maison, non, non. Mais parce que c'est ici, dans une cellule du fort de la Pierre-Levée, qu'il a passé les 6 dernières années de sa vie. Condamné à mort à l'été 1945, puis à la réclusion à perpétuité pour intelligence avec l'Allemagne et haute trahison. Mais pourquoi profaner sa tombe ? Le cercueil est-il toujours dans le caveau ? Vers 15h15, la police et les magistrats font ouvrir la dalle. Plus de doute, on a volé Pétain. Mais qui ? Et pourquoi ? Les enquêteurs trouvent rapidement une piste. Pour reboucher le trou fait dans la pierre tombale, les voleurs ont utilisé un journal espagnol. Or, de nombreux pétainistes ont trouvé refuge dans l'Espagne franquiste après la guerre. Cela se tient. Mais la direction centrale de la police judiciaire n'exclut pour l'instant aucune hypothèse. C'est beaucoup trop tôt pour cela. Surtout que le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, exige que l'on retrouve le cadavre dans les 24 heures. Quand il s'agit de Pétain, l'enjeu est politique, surtout qu'on est en pleine campagne législative. Dès le lendemain, la nouvelle fait les gros titres de la presse. Incroyable profanation, stupéfaction à l'Île-Dieu, la dernière aventure du maréchal Pétain. Les enquêteurs sont sous pression. Toutes les polices du territoire ont pour ordre de retrouver le cercueil. Mais où peut-il bien être ? Une autre piste semble plus probable encore que l'Espagne. L'ossuaire de Douaumont, à Verdun. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas que le maréchal Pétain aurait voulu être enterré, aux côtés des poilus, ceux pour qui il avait été un héros de la bataille de Verdun. Le testament qu'il a rédigé 3 ans avant sa mort le stipule clairement. Depuis son décès d'ailleurs, les pétainistes ne ménagent pas leurs efforts pour tenter d'obtenir la translation de sa dépouille à Verdun. Mais les gouvernements successifs ont tous refusé, les uns après les autres. Les adeptes de la pétainie ont-ils décidé de prendre les choses en main ? Possible, d'autant que la date du vol est troublante. Le 19 février, 2 jours avant la date anniversaire du début de la bataille de Verdun. Les policiers surveillent donc étroitement Douaumont. Mais il faut prendre le problème par tous les bouts, à commencer par le début. La dépouille n'est plus sur l'île, les chiens policiers l'auraient découvert. Alors, comment l'a-t-elle quittée ? Des habitants affirment d'avoir entendu un hélicoptère durant la nuit. Mais la navigation aérienne n'a rien remarqué de suspect. La piste la plus probable reste la mer. Une vedette venant d'Espagne ? Oui, c'est possible. Mais c'est dans les registres du bateau La Vendée, celui qui fait la navette avec le continent, que l'on trouve la trace d'un véhicule suspect. Une camionnette bleue immatriculée dans les Hauts-de-Seine mais loué avec un permis volé. La conductrice, une certaine Solange Bosch, ça ne s'invente pas, a néanmoins réservé avec le numéro d'immatriculation de son propre véhicule. Arrêtée dès le lundi soir, la commerçante se met à table dans la nuit. Elle n'a pas participé au forfait, mais elle a permis aux commandos de pénétrer sur l'île. Très vite, ceux qui ont fait le coup sont identifiés. Ils sont six. Armand et Pierre Garraud, deux anciens militaires, père et fils, deux légionnaires étrangers, un marbrier professionnel du nom de Michel Dumas et enfin le chef d'équipe, un certain Hubert Massol. Et le dernier n'est pas un inconnu. C'est l'un des plus proches collaborateurs d'une personnalité sulfureuse. L'avocat et homme politique d'extrême droite, Jean-Louis Tissier-Vignancourt, leader de l'Alliance républicaine. Cet ancien secrétaire général du premier gouvernement de Vichy est un admirateur de longue date de Pétain. Il s'avérera que c'est lui, le véritable cerveau de l'opération. Lui qui a fait un repérage sur l'île quelques semaines plus tôt. Lui qui a mis au point un plan et demandé à Hubert Massol de constituer une équipe. Le dimanche 18 février au soir, le commando complet est sur l'île. Vers 2h du matin, les six hommes pénètrent avec l'estafette dans l'enceinte du cimetière. Le marbrier a ouvert la tombe. Les malfaiteurs ont pris le cercueil et tout nettoyé derrière eux. Un peu trop bien d'ailleurs, ce qui éveillera les soupçons du fossoyeur. Puis la camionnette a pris la première navette pour le continent vers 4h30 du matin. Lâché par un complice qui devait les planquer sur la route et paniqué en découvrant à la radio que leur forfait avait été découvert, ils changent de destination. Verdun, c'est trop risqué. Ce sera Paris, où le cercueil est caché dans un box dans la banlieue de Saint-Ouen. Il n'y restera pas longtemps. Massol est arrêté par la police dès le 21 février et la dépouille est retrouvée dans la foulée, soit 3 jours à peine après son exhumation. Toujours pas de Verdun pour lui. La dépouille du maréchal Pétain est réinhumée dans son caveau dès le lendemain. C'est un énorme fiasco et une tragicomédie qui embarrasse plus qu'autre chose les politiques. À tel point d'ailleurs que tous ceux impliqués dans l'affaire ne feront l'objet ni d'une condamnation, ni même d'un procès. Embarrassant, en effet.